Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Le pape François a adressé samedi la lettre à son envoyé spécial pour le 3e congrès eucharistique national de la République démocratique du Congo, le cardinal Luis Antonio Tagle. Toujours samedi, le Saint-Père a souligné l'importance de l'art pour scruter les mystères de la vie humaine et orienter notre société vers la beauté et la fraternité humaine. François recevait les participants à un forum sur l'esthétique globale de l'imagination catholique co-organisé par la revue Civiltà Cattolica et la Georgetown University. Vous aurez les détails dans notre rubrique « La semaine du pape » avant les nouvelles du Bénin et du Nigeria. L'actualité sociale et politique en Afrique nous conduira notamment au Tchad, au Sénégal, au Soudan. Veuillez également retrouver dans cette édition la méditation de la solennité de la Pentecôte. Vous suivrez également l'ambassadeur du Cameroun près les Saint-Sièges sur l'audience que le pape accordera lundi aux ambassadeurs africains près les Saint-Sièges ainsi qu'à 54 enfants africains dans le cadre des 60 ans de l'Union africaine. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
Ouvrons l'actualité de l'Église avec la semaine du pape, les comptes rendus des activités du pape de cette semaine. Jacques Ngol.
Après la journée de vendredi marquée par l'annulation de ses audiences en raison d'un état fiévreux, le Saint-Père a repris ses activités samedi. Le pape a adressé samedi la lettre à son envoyé spécial pour le Congrès eucharistique national de la République démocratique du Congo qui aura lieu à Lubumbashi du 4 au 11 juin. Le 13 avril dernier, le Saint-Père avait nommé comme envoyé spécial pour cet événement le cardinal Luis Antonio Tagle, pro-préfet du dicastère pour l'évangélisation. Section pour la première évangélisation et les nouvelles églises particulières. La mission pontificale est composée de Mgr Georges Kalenga Masuka, deuxième vice-secrétaire général adjoint de la Conférence épiscopale nationale du Congo, et de l'abbé Yvon Kolongo Kafoko, directeur du centre pastoral de l'archidiocèse de Lubumbashi. L'esthétique globale de l'imagination catholique, tel est le thème d'un forum co-organisé par la revue du Saint-Siège Civiltà Cattolica et l'institution jésuite Georgetown University des États-Unis. Samedi, le pape François a reçu les participants à ce forum qui a réuni poètes, écrivains, artistes et metteurs en scène de différents pays. Les artistes, a souligné François dans son discours, sont les yeux qui rêvent, la voix des inquiétudes profondes de l'homme et ont la grande responsabilité de façonner notre imagination, car leur travail a une conséquence notable sur la vie spirituelle. Le Saint-Père les a invités à continuer à être créatifs afin de produire cet art qui aide à lire et scruter les mystères de la vie humaine et à orienter notre société vers la beauté et la fraternité humaine. Dimanche, le pape François présidait l'Eucharistie en la solennité de la Pentecôte. Ça sera à 10h sur la place Saint-Pierre. La messe sera retransmise en direct sur les différents canaux de Vatican News. En ondes courtes, ce sera sur le 17790 kHz. Au cours de la semaine qui vient de s'achever, jeudi a été rendu public le message du pape en vue de la prochaine journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création qui aura lieu le 1er septembre, avec pour thème cette année que la justice et la paix jaillissent. Le pape exhorte à changer les cœurs, les modes de vie et les politiques publiques sur la création. Toujours jeudi, François a reçu les sœurs missionnaires de la charité des dons Orion réunies en chapitre général. Le pape a souligné trois moyens fondamentaux qui permettront de réussir une mission, notamment être unis au Christ, proche de nos frères et sœurs et actifs au service. Poursuivant sa catéchèse sur la passion d'évangéliser le zèle apostolique du croyant, le pape s'est arrêté sur la figure du martyr coréen Saint-André Kim Taegon lors de l'audience générale du 24 mai, place Saint-Pierre. Le pape a fait remarquer en particulier deux aspects qui ont caractérisé la vie de Saint-André Kim, être disciple de Jésus et pouvoir se relever quand on tombe. À l'issue de l'audience générale, le pape François avait commémoré la journée mondiale de prière pour l'Église catholique en Chine. Lundi, le pape François avait dialogué avec les évêques italiens à l'occasion de l'ouverture de leur 77e Assemblée Générale. Toujours lundi avait été confirmé les dates du voyage du pape François au Portugal du 2 au 6 août prochain pour les Journées mondiales de la jeunesse.
Merci Jacques. L'actualité de l'Église en Afrique nous conduit au Bénin. Après 3 jours de travaux, la session des évêques de ce pays s'est clôturée vendredi. Outre les points d'ordre sociopolitique abordés au cours de ces assises, l'épiscopat béninois a renouvelé son conseil permanent. Guy Dosuyovo nous en donne les détails.
Ouverte le mercredi 24 mai 2023, les assises ordinaires des évêques du Bénin au grand séminaire Monseigneur Louis Parizeau de Tianvili dans le diocèse de Lokusa ont pris fin dans l'après-midi du vendredi 26 mai 2023 par le renouvellement du conseil permanent de la conférence épiscopale. Les nouveaux membres de ce conseil ont pour nom président Monseigneur Roger Mbedi, archevêque de Cotonou, vice-président Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo, secrétaire général Monseigneur Bernard de Clairvaux-Doha, évêque de Djougou, conseiller Monseigneur François Nohosu, évêque de Dassazoumé. Plusieurs autres points d'ordre ecclésial et sociopolitique ont fait l'objet de la session. L'évêque d'Aboumé en charge des médias et porte-parole du collège des évêques Monseigneur Eugène Cyril Hondé en a donné la quintessence devant les professionnels des médias catholiques et publics du Bénin.
Au plan social, les évêques du Bénin demandent aux autorités politico-administratives d'étudier dans quelle mesure il est possible de réduire les taxes sur les produits de première nécessité afin d'en permettre l'accès aux couches les plus défavorisées de nos populations.
Et le tout nouveau président des évêques du Bénin nous livrer ses premiers sentiments.
Je suis heureux. C'est un service que mes pères évêques m'ont demandé. C'est avec joie que je donnerai le meilleur de moi-même pour être au service de mon peuple et de mon Église.
Le meurtre d'au moins 170 personnes dans l'état du Plateau au Nigeria est un sujet de profonde préoccupation pour l'Association des chrétiens du Nigeria, a déclaré le président de cette entité, dont est membre la Conférence des évêques catholiques du Nigeria. L'association condamne dans les termes les plus forts possibles ce massacre des dizaines de personnes dans l'état du centre-nord du pays, a-t-elle déclaré. Le massacre qui survient des affrontements commencés le 15 mai montre une résurgence des meurtres aveugles des citoyens innocents dans les zones de gouvernement local des Mangu et Riom de l'État du Plateau, a déclaré le pasteur Daniel Oko, président de cette association. Il a appelé à bâtir un Nigeria de paix où tous les citoyens puissent vivre dans la dignité. Les affrontements et attaques dans plusieurs villages du district des Mangu ont démarré le 15 mai. Selon des témoins, environ 1000 bâtiments ont été brûlés et 22 villages ont été touchés. De son côté, l'Agence nationale de gestion des urgences a indiqué que plus de 3500 personnes ont été déplacées et au moins 720 maisons ont été partiellement ou complètement détruites. Les villages sont également désertés. Vendredi, l'aide humanitaire parvenait toujours difficilement aux endroits touchés par ces conflits qui durent depuis plus de 10 jours, a indiqué les représentants du district d'Apout-Minster Daniel. Poursuivons l'actualité sociale et politique en Afrique en parlant d'un autre conflit au Tchad cette fois-ci. Adoum Forteye Amadou, gouverneur de la province du Mandoul, a annoncé samedi la mort d'au moins 10 personnes tuées jeudi dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le sud de ce pays du Sahel, régulièrement en proie à des conflits meurtriers entre ces communautés nomades et sédentaires. 5 éleveurs auteurs de la tuerie ont été arrêtés, ainsi que les meurtriers du jeune Bouvier a-t-il poursuivi. Les sites internet de l'État sénégalais ont été touchés vendredi par une cyberattaque dans un contexte de forte crispation politique à 9 mois de la présidentielle. Un compte Mysterious Team O, se réclamant du groupe des pirates informatiques Anonymous, a revendiqué sur les réseaux sociaux avoir paralysé les sites de la présidence et ceux utilisant les domaines gouv.sn, comme celui du gouvernement ou des ministères des forces armées et de la santé. Ces sites étaient à nouveau opérationnels samedi. Mysterious Team O s'est dit solidaire des citoyens sénégalais et de leur droit à choisir librement leur président. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réaffirmé son soutien à son émissaire au Soudan, se disant choqué par une lettre du chef de l'armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhané, réclamant son remplacement. Le père jésuite Rigobert Kyungu nous introduit à la méditation avec les lectures de la solennité de la Pentecôte.
Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la solennité de la Pentecôte. Dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, Saint Luc nous décrit l'événement même de la Pentecôte et l'expérience qu'ont eu les apôtres lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit pour la première fois. Ils s'exprimaient en d'autres langues et tout le monde pouvait les entendre, chacun dans sa propre langue, proclamer les merveilles de Dieu. Ce récit nous instruit déjà sur un des rôles de l'Esprit, qui est celui de nous communiquer la volonté de Dieu dans nos propres langues. En effet, Dieu, par l'Esprit, nous parle à travers différentes motions que l'Esprit suscite au fond de nos cœurs. Et quelles que soient nos diversités culturelles, chacun de nous est capable de sentir et d'éprouver ce que Dieu lui communique. C'est de cette manière que l'Esprit nous inspire ce qui est bien afin de l'accomplir et nous éclaire aussi sur le mal qu'il ne faut pas commettre. Il nous appartient donc de rester attentifs aux motions de l'Esprit en nous afin de mieux nous conduire conformément à la volonté de Dieu. Dans la deuxième lecture tirée de sa première lettre aux Corinthiens, Saint Paul affirme que nul ne peut dire de Jésus qu'il est Seigneur s'il n'est poussé par l'Esprit. Voilà un autre rôle de l'Esprit. Il nous fait connaître la personne de Jésus. En effet, Jésus n'a-t-il pas dit que l'Esprit nous conduirait à la vérité tout entière? Et qu'est-ce que la vérité, sinon Jésus lui-même? Vois Jean chapitre 14, verset 6 et chapitre 16, verset 13. Si donc nous nous laissons conduire par l'Esprit, celui-ci nous fera mieux connaître Jésus, qui à son tour nous révélera le Père. Voir Luc chapitre 10, verset 22. Dans cette deuxième lecture, Saint Paul insiste aussi sur la diversité de la manifestation de l'Esprit pour le bien de tous. Ainsi, tous doivent s'employer à agir comme différents membres d'un même corps. L'auteur du quatrième évangile montre que le don de l'Esprit a été fait aux apôtres déjà au soir de la résurrection de Jésus. D'après ce récit, la première chose que Jésus fait en apparaissant aux disciples, c'est de leur donner la paix, car les disciples s'enfermaient et verrouillaient bien les portes par crainte des Juifs. Par deux fois, Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». Peu avant sa mort, Jésus avait déjà annoncé que la paix qu'il donne n'est pas comme celle du monde. Jean chapitre 14, verset 27. En effet, la paix de Jésus est une force intérieure qui donne confiance et assurance en toute situation, si dramatique soit-elle. Après le don de la paix, Jésus envoie les apôtres en mission, tout comme lui-même a été envoyé par le Père. C'est alors qu'il souffle sur eux pour leur donner l'Esprit comme une provision pour la mission qu'il vient de leur confier. Demandant au Seigneur de renouveler en nous le don de l'Esprit reçu au baptême, afin qu'il marque toutes nos activités au service du royaume. Amen.
Invité du jour.
Le jeudi 25 mai 2023 a été célébrée la Journée mondiale de l'Afrique, une célébration qui commémore la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine OUA le 25 mai 1963, devenue aujourd'hui Union africaine. Dans le cadre de la commémoration de cet événement continental, le pape François recevra lundi 29 mai en audience au Palais apostolique du Vatican 54 enfants représentant les 54 États membres. L'ambassadeur du Cameroun et doyen du groupe africain du corps diplomatique accrédité près les Saint-Sièges, M. Antoine Zanga, nous parle de cette initiative en commençant par son historique.
L'initiative de cette audience est né du groupe africain du corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège. Bon, votre serviteur en est le doyen de ce groupe africain. Nous sommes actuellement 15. Alors, ce groupe se réunit régulièrement sous la présidence de votre serviteur à la chancellerie du Cameroun. Et au début du mois de février de cette année, nous avons réfléchi à notre plan d'action pour la nouvelle année 2023. C'est dans ce cadre-là que, entre autres, nous nous sommes dit, chaque année, l'Afrique célèbre la Journée de l'Afrique au 25 mai de l'année. Jusque-là, cette Journée de l'Afrique, nous l'avons toujours célébrée à travers des réceptions. Nous nous sommes dit, cette année, il faudrait trouver une autre idée que celle des réceptions. C'est ainsi que nous nous sommes dit, mais tiens, pourquoi ne solliciterions-nous pas une audience du Saint-Père aux enfants africains? Pourquoi aux enfants africains? Parce que c'est eux l'Afrique du futur. Nous, nous sommes l'Afrique du présent et presque du passé déjà. L'Afrique du futur, c'est ses enfants. Pourquoi ne demanderions-nous pas une audience, que le pape rencontre ses enfants à l'occasion de la Journée de l'Afrique de cette année et qu'on sollicite une bénédiction du Saint-Père sur ses enfants, sur cette Afrique du futur. Puis que le Saint-Père puisse adresser un message à l'Afrique tout entière. On a adopté cette idée. J'ai été chargé, avec mon collègue du Sénégal, de contacter le cardinal secrétaire d'État. Le cardinal, une semaine après, m'a répondu par une note verbale très enthousiasmante où il m'informait de l'accord du Saint-Père de recevoir les enfants africains. Nous avons suggéré que les enfants soient accompagnés chacun par un ou deux de ses parents et que les 15 ambassadeurs africains résidents les accompagnent.
Alors, vous avez parlé du futur de l'Afrique à travers ses enfants.
C'est ça.
Excellence, comment entrevoit aujourd'hui le futur de l'Afrique à travers ses enfants?
Je ne peux qu'émettre des souhaits que cette Afrique soit plus développée économiquement, qu'elle soit plus unie, qu'elle soit plus maîtresse de ses décisions, que ses décisions ne viennent pas d'ailleurs, qu'elle soit maîtresse de ses richesses, qu'elle soit...
L'Afrique doit prendre soin de ses enfants pour que demain ses enfants puissent porter le flambeau africain.
Absolument.
Et comment y arriver?
Je ne peux, là encore, qu'émettre des souhaits. Déjà, qu'on reconnaisse les droits de l'enfant, qu'on soigne l'enfant, qu'on nourrisse l'enfant, qu'on éduque l'enfant, qu'on forme l'enfant, bref.
Qu'on nourrisse l'enfant parce que beaucoup d'enfants meurent de malnutrition, famine. De famine en Afrique.
Absolument, ou de maladies, parfois des maladies tout à fait banales. Parce que soit qu'il manque des moyens, soit que ces moyens sont là, mais sont mal utilisés.
C'est une politique de l'Afrique bien dirigée vers l'enfant.
Oui, voilà, bien dirigée vers l'enfant, parce que c'est cet enfant qui fera l'Afrique de demain.
Parlant de l'enfant, la journée même de l'enfant africain tombe le 16 juin, et cette date commémore les massacres des enfants africains
Soweto
par les régimes de l'apartheid.
C'est.
Et aujourd'hui, aussi bien en Afrique du Sud qu'ailleurs, il y a des maux qui menacent en tout cas cet enfant. Par exemple, il y a les phénomènes d'enfants apatrides, vu qu'il y a beaucoup de déplacements des populations. Il y a des enfants qui se retrouvent au milieu. On ne sait pas, ils sont de quel état. Et ce phénomène a été indexé il y a quelques jours par certains prélats.
Des enfants guerriers, des
enfants enrôlés dans l'armée.
Exploités.
Comment faire pour juguler tous ces maux qui menacent cet enfant qui est plutôt l'avenir de l'Afrique?
Il y a des textes qui ont été adoptés. Des textes au plan continental, au niveau de l'Union africaine. Il y a des textes au niveau des états qui reconnaissent les droits de l'enfant, qui interdisent une certaine manière d'exploiter les enfants, qui fixent des règles pour, par exemple, embaucher des enfants, les faire travailler dans des chantiers, tout ça. Il y a des textes pour ça, des textes juridiques, des textes internes aux États et des textes internationaux, continentaux, au niveau de l'Union africaine. Mais le problème maintenant, c'est de les appliquer. Il s'agit d'appliquer ces textes. C'est l'application qui fait défaut.
Monsieur Antoine Zanga, l'ambassadeur du Cameroun et doyen du groupe africain du corps diplomatique accrédité près les Saint-Siège, interviewé par Radio Vatican.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service Français-Afrique de Radio Vatican, Stanislas Kambashi, qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.